Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Dynamique Radio, bonsoir, on est de retour dans la libre antenne avec Zaza.
Bonsoir.
Ça va Zaza?
Ça va très bien.
Tout va bien, tout va bien.
Tout va bien.
J. Warner.
Un grand sourire.
Toujours fidèle au poste.
Et on a ce soir avec nous Colonel, bonsoir Colonel.
Tout va bien.
À vos gardes, levez du drapeau J. Warner. Marseillaise J. Warner.
Ah oui, la Marseillaise.
Les enfants de la patrie, le jour de
gloire est arrivé.
Alors, on va parler d'un sujet d'actualité. Hein, en effet, alors, ce n'est pas l'Élysée qui a été attaqué, mais c'est le Kremlin et semble-t-il attaqué par un drone. Alors, on a fait
deux drones,
un plus un, donc deux. Deux drones.
Il s'est compté jusqu'à deux, bravo.
Deux drones, et du coup, on a fait appel à notre colonel, à notre spécialiste S militaire, pour nous dire quid de cette attaque au drone, qui est derrière cela.
Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. D'abord,
j'espère que tu as la réponse.
Se poser.
Bah, personne l'a, alors s'il l'a, il est très fort quand même.
On a quelques pistes.
S'il l'a, il est très fort.
Ah, on a des pistes. Bon. C'est pas des pistes
noires. D'abord, c'est la première question qui se pose, et peut-être que vous avez vu la vidéo, c'est quel type de drone sont passés sur le Kremlin.
Alors, c'est pas des très gros, c'est ça?
Ce sont des petits.
Ah, les petits.
Des petits drones. Presque, je dirais, les drones que tu achètes
chez Darty.
Les drones perso.
Donc, ça vient pas très loin.
Ça
ne peut pas
en
venir
gros,
de loin.
En gros, c'est maximum, je dirais, 10 minutes, 20 minutes de vol.
D'accord.
Ça veut dire que ça a été effectivement lancé à partir de la banlieue de Moscou.
OK.
Et là, il faut se poser la question, qui?
Ben oui,
ben
c'est
oui.
La question
alors,
que je te
dans
pose,
la banlieue de
colonel.
Moscou, dans la banlieue de Moscou, il y a beaucoup de monde.
Alors, je ne sais pas. Est-ce que dans les banlieues de Moscou, il y a beaucoup
déjà,
de monde?
Déjà, l'Union soviétique faisait que la République, je dirais, d'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Et qu'il y a énormément déjà de Russes qui sont mariés avec des Ukrainiens, des Ukrainiennes, etc. Mmh. Donc il y a obligatoirement déjà dans la banlieue de Moscou des gens qui sont proches des Ukrainiens. Ça, c'est une première piste. Ensuite, il peut y avoir des gens, alors je vais être un petit peu plus précis, il peut y avoir des intérêts financiers derrière. On dit, bah, écoutez, si vous faites ça, eh ben, on vous paye. Donc le SBU, hein, donc le service...
Ex-KGB.
Non, le SBU, service ukrainien. Service secret ukrainien. Eux, ils peuvent très bien... payer une femme ukrainienne ou un homme ukrainien qui est marié avec une femme russe et qui habite dans la banlieue en disant, écoutez, si vous faites ça, bon, ça arrange, on va pouvoir vous aider, on vous donnera une villa, ou au retour, vous revenez en Ukraine.
Avec le risque quand même de...
Ah ben, il y a une prise de risque. Mais donc, effectivement.
En prison.
Donc, il faut que la somme soit suffisamment coquette pour que ça puisse séduire. Donc, ça, c'est le métier, je dirais, des services de renseignement d'un pays et de l'autre, de s'introduire, je dirais, d'acheter un agent, d'acheter quelqu'un pour mener une action, je dirais, contre l'adversaire.
Donc,
alors, entre les différents services secrets, ukrainien, entre les différents services secrets, je dirais, occidentaux, russes, ukrainiens, etc., il y a des choses comme ça tous les jours.
Ouais.
Bon, on en parle. La question, c'est pourquoi on en parle. Alors, ça, c'est une question après de stratégie. C'est en gros, pourquoi ces deux petits drones ont été balancés au-dessus du Kremlin, parce que même s'ils avaient une bombe d'un kilo, de 2 kilos, ça n'a aucun effet. Donc l'effet, il est d'abord psychologique.
En plus, Poutine n'était même pas au Kremlin.
Non,
donc
il était pas au Kremlin.
S'ils étaient vraiment très bien renseignés, les services secrets, ça n'avait aucun...
Donc l'objectif
n'est
pas Poutine.
L'objectif
n'est pas Poutine.
L'objectif
n'est pas Poutine, clairement. L'objectif est autre.
Là.
Alors, quels sont les autres objectifs possibles quand on fait, je dirais, une agitation de ce type-là?
La communication.
C'est de la communication. Et plus que de la communication, c'est ce qu'on appelle des psyops.
What?
Qu'est-ce que c'est que les psyops? Psychological operation.
Psychologique. Du terrorisme intellectuel. Du terrorisme psychologique.
Quelle est aujourd'hui la situation dans cette guerre? Parce que vous pouvez entendre que c'est une vraie guerre. Et une vraie guerre entre, effectivement, les États-Unis et la Russie, par pays interposé, avec des alliés d'un côté et des alliés de l'autre. Et il y a des victoires dans un domaine et des victoires dans l'autre. C'est-à-dire que Poutine est quand même un joueur d'échecs, on l'a déjà dit. Et aujourd'hui, sur le parti du terrain, on voit bien que Poutine a bloqué la situation au niveau militaire. Donc sur le côté militaire, ça ne bouge pas. Bon. Que effectivement, d'un côté comme de l'autre, il y a un truc amusant aujourd'hui, il y a une nouvelle, je ne sais pas si tu as entendu, que les troupes de Wagner était, je dirais, manqué de munitions.
Oui.
Et que le patron de Wagner râlait un peu.
Oui.
Alors, il peut y avoir deux raisons.
Comme il fait souvent,
d'ailleurs. Deux raisons. Les Russes peuvent très bien faire exprès de réduire les munitions pour empêcher que Wagner aille trop loin. Mmh. Il faut bien l'entendre, ça. Ça peut être aussi une stratégie de Poutine.
Mmh. Bon. Oui, donc, de geler un peu
la
situation.
Pour pas que ça bouge trop jusqu'au moment.
Oui, d'ailleurs,
il joue sur les
aujourd'hui,
gens.
Il demande
est-ce que je pousse sur l'accélérateur, est-ce que je réduis, bon, etc. Donc il a la capacité de jouer comme il veut. Et puis en même temps, donc la situation militaire est un peu gelée, mais il y a d'autres modes d'action qui ont été mis en cause. D'autres modes d'action, en particulier donc ce mode d'action par les drones, qui agite l'aspect, je dirais, médiatique. On parle de ça et on veut faire peur à la population russe. Clairement, cette action de Psyops, c'est pour faire peur à la population russe. Est-ce que la population russe va avoir peur à cause de ça? Alors c'est vrai que les Ukrainiens ont balancé quelques drones qui ont explosé sur un dépôt de carburant, qui ont fait sauter un truc. Bon, la Russie est grande, faut pas l'oublier. Bon, est-ce que ça joue beaucoup? Moi, je pense que c'est surtout une manipulation, encore une fois, des pays occidentaux, en se servant peut-être des services secrets ukrainiens, en se servant peut-être des services secrets américains, en servant peut-être. Des services secrets de d'autres.
Bien sûr.
Ça peut être aussi, je dirais, des Géorgiens qui sont payés, qui font un voyage à Moscou et qu'on a payé pour faire ça. Encore une fois, c'est clair que ça s'inscrit, je dirais, dans la démarche de conflit où on veut déstabiliser la Russie.
Voilà. Mais ça peut être aussi des Russes.
Oui, parce qu'il y a.
Ça peut être des Russes anti-Poutine. Ça peut être des Russes pour justement semer le doute et
est-ce que c'est
l'intérêt de Poutine?
Est-ce que c'est pas Poutine himself?
Bah oui,
c'est son intérêt.
Dans
quel est le but alors?
Alors le but, ça serait justement de provoquer
une réaction,
des bombardements sur des.
Quand tu observes sa stratégie, c'est pas ce qu'il fait. Donc, chez Poutine, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une cohérence dans les actions. Donc, Poutine n'est pas un fou, donc il n'est pas incohérent. Donc, si aujourd'hui, si tu veux, il veut lui-même se saborder...
Ça, c'est ce que tu penses.
Bon, écoute, on a suffisamment d'éléments pour voir qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, si tu veux, qui a un cerveau qui fonctionne.
Ouais.
Et qu'effectivement, alors, on a eu toute une propagande accidentale. Il est fou, c'est Hitler,
malade,
c'est un nazi,
il est malade,
il a un cancer,
ouais.
Il a ci, il a ça.
Ouais.
Donc ça, si tu veux...
Et en plus,
Donc, cette communication avait effectivement pour objet de vouloir absolument dénoncer les Russes comme étant des salauds. Bon. Alors aujourd'hui, il faut voir que cette communication, je vais aborder ce sujet, c'est que, je prends les pays africains, je prends les pays d'Amérique du Sud, ces gens-là, ils n'acceptent plus qu'on dise que tel pays sont des salauds et qu'il faut donc les priver.
Oui, ça, on l'a...
Oui, mais attends, conséquence, elle est là. La conséquence, c'est que Poutine ne va pas jouer à ce jeu-là. En revanche, par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Américains, c'est une puissance militaire. Et qu'ils ont mis l'accent déjà sur une démarche militaire en fournissant des armes. Ils voient aujourd'hui que Poutine n'a pas joué cette carte-là. Et Poutine, qu'est-ce qu'il a joué dans la carte? Il a joué sur le talon d'Achille des Américains. C'est quoi le talon d'Achille? Le talon d'Achille des Américains, c'est le dollar. Et c'est la vulnérabilité des Américains, c'est les pétrodollars. Et tout l'art de Poutine et du président chinois... c'est d'avoir joué sur les pétrodollars et d'avoir obtenu un accord qui est historique entre, encore une fois, l'Arabie saoudite et l'Iran. La décision de cette semaine, les Américains ont demandé la semaine dernière, il y a quelques jours, que le prix du baril augmente.
Oui, oui.
Eh bien, ils se sont entendus contre les Américains et le prix du baril a baissé.
Voilà, donc
inversement.
C'est une voie parmi tant d'autres. Revenons à notre question du jour, les drones. Alors, les Russes, obligatoirement, comme ça a explosé au-dessus du Kremlin, on fait l'enquête, enfin une enquête.
Bien sûr.
Concrètement, parce qu'on
ils
peut
ont tiré
savoir...
dessus.
On
ah ben ils ont tiré dessus.
Oui, oui,
on
ils peut les savoir ont neutralisés, ouais.
On peut savoir d'où ça vient une fois qu'on récupère les morceaux de ces drones-là.
Complètement. Ils vont faire l'enquête, ils vont analyser les morceaux et ils vont identifier, je dirais, quel type de drone.
Ils ne le diront pas, obligatoirement.
Ils ne le sauront pas forcément tout de suite parce qu'effectivement, ils ont un suivi radar. Donc, ils ont certainement une surveillance permanente, je dirais,
De la ville.
Surtout
au-dessus du Kremlin.
Voilà.
Donc, ils vont voir d'où c'est parti. Et ils vont, à partir de là, identifier peut-être...
Qui a fait ça ?
Et s'il y a des caméras vidéo, etc., qui surveillent telle zone, ils vont pouvoir identifier éventuellement certaines personnes. Mais ce n'est pas sûr.
Mais
parce que l'adversaire, en particulier si c'est un service secret, ils vont se débrouiller pour brouiller...
Pour qu'il n'y ait pas de traces.
Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de l'agitation, il y a des psyops pour toucher, je dirais, le mental et le moral, je dirais, des Russes. Je pense qu'effectivement, la télévision et la radio russe, ça ne va pas souvent très passer, ça va pas passer souvent. Inversement, de la même manière qu'en France, on y a un certain nombre d'informations qui ne passent pas, eh bien, les télévisions russes font que certaines informations passent moins.
Et pour conclure, au niveau des drones, ça devient vraiment quand même une véritable arme aujourd'hui dans la guerre moderne.
C'est une arme complémentaire des autres, qui permet effectivement de faire des choses différentes qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Et c'est pour ça que on peut, je dirais, être un petit peu prudent sur, je dirais, l'arrivée des chars qui ont été livrés donc à l'Ukraine. Il y a près de 300 chars qui ont été, un peu plus de 250, qui ont été livrés à l'Ukraine, dont des Abrams, dont, je dirais, des Léopard 2, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui?
J'ai vu une vidéo
qui date de ce matin. Où des chars Abrams étaient descendus par un vieux missile anti-char.
Ouais.
Donc, ça va aussi poser des questions sur la capacité de ces chars soi-disant modernes pour faire face à des missiles anciens.
Et une défense anti-aérienne peut lutter contre des drones?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a des moyens. La preuve, c'est que les Russes ont réussi.
Bah, ouais,
au dernier moment, quand même.
Ils sont battus. Ouais,
oui, mais ouais. C'est mieux que rien. Mais ça, ce qui prouve que le drone a été lancé de très près. Moi, je pense. Parce que, encore une fois, on peut dire que
oui, on aurait détecté ça si ça venait à des kilomètres.
Ah oui.
T'arrives en voiture, tu te mets à 100 mètres et puis tu l'envoies. Et là, tu n'es pas détecté. Hein.
Ouais. Ouais.
Donc, c'est clair
versus si ça venait vraiment du territoire ukrainien, c'est comme si à plus de 100 et quelques kilomètres, il aurait été abattu 20 000 fois avant d'arriver.
Alors, maintenant, est-ce que c'est l'intérêt des Américains de foutre la pagaille à Moscou? Vu, je dirais, la campagne qui est faite au niveau occidental contre la Russie, ça peut être leur volonté ou leur intérêt. Mais ce que, la force de Moscou, la force de Poutine, c'est que derrière, il y a les accords qui ont été faits avec les BRICS.
Oui, oui.
Et l'accord,
il n'est pas tout seul.
C'est-à-dire que, voilà, donc si les Américains commencent, je dirais, à vouloir le démolir là, je pense que ça va vraiment mal se passer ailleurs.
Et sur un drone, on peut désormais tout mettre. Finalement, on peut mettre des armes de destruction massive, des produits chimiques, nucléaires.
Tu peux faire de l'épandage.
C'est ça qui est dangereux aussi, finalement.
Alors, le nucléaire, non. Le nucléaire, non. Ça, je dis tout de suite, le nucléaire, tu mettras éventuellement de la poussière pour te faire plaisir.
Mais de la bactérie.
Tu peux mettre de la bactérie, tu peux mettre des neurotoxiques.
Qui sait si ce drone-là sur le Kremlin n'a pas déposé des produits toxiques avant d'être...
Alors, c'est vrai qu'encore une fois...
On ne sait pas, en fait.
Alors, les pays actuellement belligérants se sont, soi-disant, engagés à ne pas utiliser produits ni chimiques, ni bactériologiques. Mmh. Mais il y a une réalité, c'est que ça pourrait être utilisé.
Voilà, une manière de tuer Poutine à petit feu.
Je pense que...
Ouais, ah, t'imagines, il lui a mis...
Mais alors...
il est pas au Kremlin. Il est dans un bunker. Ouais. Il s'en bat les yeux.
Parce que
ils ont envoyé.
Alors c'est vrai que en France, comme certainement la plupart des pays occidentaux, on a surtout des nouvelles des Ukrainiens et on voit que il y a des Ukrainiens qui à la base n'étaient pas militaires, maintenant qui sont dans l'armée, qui pilotent des drones pour surveiller les lignes ennemies. Donc,
oui, parce que
le drone, moyen de surveillance.
Ah oui.
Aussi, okay. Ouais, aussi. Moyen d'attaque et de surveillance.
Il y a des drones de différents types. Il y a des drones sur porte-avions. Il y a des drones qui peuvent décoller d'un sous-marin. Il y a des drones, je dirais, qui sont à tous les niveaux.
Mais les drones que je vous parle là, c'est ce qu'ils utilisent, c'est les drones qu'on trouve à
la FNAC,
à Darty.
Si ça se trouve, celui-là, c'est un FNAC Darty. C'est un drone FNAC.
Ce qu'on trouve à la FNAC ou chez Darty, ça coûte quand même, je dirais... entre les meilleurs, entre les moins bons, 1 000 euros, et ça monte jusqu'à 10 000 euros, quoi.
Oui.
C'est ça. Donc, on peut faire d'autres choses. Et d'ailleurs, un sujet, on va changer de sujet, là, on va faire un split. On va parler d'un porte-avions, parce qu'on passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. En quoi est-ce utile aujourd'hui d'avoir ou de construire un porte-avions dans le monde militaire de demain?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. La question aujourd'hui, c'est que si on fait une analyse tout à fait immédiate par rapport au conflit, on a découvert qu'il y avait effectivement, les Russes ont mis au point une arme vraiment très sophistiquée et très puissante, qui sont donc tous ces missiles hypersoniques. Donc un missile qui arrive à Mach 5 ou à Mach 6, je dirais, sur un porte-avions, aujourd'hui, le porte-avions n'a aucun moyen de défense.
Ah bah c'est clair.
Le porte-avions lui-même.
Lui-même ne peut pas se protéger.
Ses frégates, c'est... non plus.
Non plus.
Okay,
donc aujourd'hui, premier raisonnement à chaud, Est-ce que la porte-avions est vulnérable ? Oui, la porte-avions est vulnérable. Mais il était déjà avant. Alors ça, il faut bien aussi l'entendre, que tout le monde l'entende bien. C'est que la porte-avions, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre des Malouines ? Est-ce que certains se souviennent
Argentine,
de la guerre des Malouines ?
Grande-Bretagne.
Alors voilà, donc Argentine-Grande-Bretagne, il se passe quoi ? Les Malouines, ce sont des îles, donc les Falklands, ce sont des îles qu'on appelle les Malouines en français, et c'est un territoire où les Français ont été, etc., qui ont été repris ensuite par les Anglais, et les Anglais ont refusé, et c'est tout près de l'Argentine, les Anglais ont refusé de laisser ces îles à l'Argentine. Pour quelle raison ? Ben, ça contrôle quoi, ces îles ?
Le détroit.
Le détroit, là, tout à fait. Le détroit qui est dans le point de sud, entre l'Antarctique et, effectivement, donc, l'Amérique du Sud. Et dans ce cadre-là, les Argentins, il y a quelques années, c'est très intéressant, on avait vendu des Mirages à l'Argentine. Mmh. Et l'Argentine était un bon client, on s'entendait bien avec Dassault, etc. Et c'est vrai qu'on avait fait de belles choses, et on avait vendu aussi des missiles Exocet. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ouais. Donc des missiles, des petits missiles de croisière que la France savait faire très rapidement. La France a été un des premiers pays à faire des missiles de croisière, il faut le savoir. Et ça, c'est vraiment un succès des ingénieurs.
Missile de croisière, ce qui veut dire ?
Missile de croisière, c'est-à-dire que tu fais décoller, tu fais partir un missile, je dirais, du bateau, et pendant 10 km, 20 km, 30 km, 100 km, 150 km, 200 km ou 300 km, eh bien, il va voler au ras de l'eau.
Ah, ok. Oui.
Et au dernier moment, il va chercher sa cible et poum.
C'est incroyable.
Et donc, l'Exocet.
J'adore Fred.
L'Exocet, c'est un missile. Évidemment, un missile.
Tu vois ton ex.
Et alors, je vais te rassurer de suite. En plus, c'est un missile avec tête chercheuse, t'imagines.
En plus, c'est tête chercheuse.
Et avec reconnaissance
spatiale.
Oh là là, génial. Oh putain.
Disons que c'est reconnaissance.
J'ai du boulot là, c'est bon.
C'est un missile qui a permis, quand même, un missile qui a permis déjà un exploit, c'est-à-dire que les Anglais ont envoyé, quand les Argentins ont attaqué, ont mis des troupes sur les îles Falkland pour prendre ces îles où il y avait juste, je dirais, 10 militaires anglais. Et les Anglais ont été furieux, et donc ils ont envoyé un porte-avions, des frégates, tout un tas de bateaux de guerre pour reprendre là-bas. Mais ce qui n'a pas été dit, parce que ça a été caché, c'est qu'effectivement, les Mirages qui étaient vendus à l'Argentine, avec ces Exocets, ils ont fait des exploits. Et les pilotes argentins étaient d'excellents pilotes, et les Exocets ont effectivement flingué le porte-avions, la Royale, le porte-avions britannique. Okay. Alors ça a été caché, mais ils ont aussi flingué, je dirais, d'autres bateaux qui ont coulé. L'Ark Royal n'a pas coulé, donc le porte-avions britannique n'a pas coulé. Ça a été caché, on dit en réparé, etc., mais il a été mis à l'écart pendant tout un temps. Et donc c'était une première vulnérabilité des porte-avions. Alors
aujourd'hui, se pose la question.
Aujourd'hui, la même question se pose.
Nouveau porte-avions, sachant que c'est
le
cas en France.
Sachant qu'un sous-marin, effectivement, peut aussi, je dirais, tirer un porte-avions.
Alors, quel est l'intérêt ? Parce que du coup, il y a nos gouvernants ont décidé de faire construire un nouveau.
Là, on a vu un peu la vulnérabilité et l'aspect militaire des choses.
Maintenant, on va voir l'intérêt.
Dans quel cadre est utilisé un porte-avions ? Un porte-avions, c'est d'abord une technologie de pointe et un savoir-faire qui est détenu par combien de pays au monde actuellement ?
Alors, combien de pays ont des porte-avions ?
La France, les États-Unis.
L'Angleterre.
Qui fabrique des porte-avions ?
La France.
La France, les États-Unis. Les États-Unis livrent aux Anglais et les Chinois. Donc, les Chinois ont construit leur premier porte-avions, c'est vrai. Okay. Et ils s'équipent, effectivement, d'une flotte avec plusieurs porte-avions. B, derrière ça, donc c'est un savoir-faire, c'est une connaissance. Est-ce que le porte-avions est un outil purement militaire ?
Alors, au départ, oui.
Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'utilisation qu'on en fait, il y a, là aussi, quand il y a, je dirais, un conflit qui monte quelque part, ou qu'il y a, on voit une intervention qui va être nécessaire. Quand il y a eu, par exemple, des accords qui ont été signés...
C'est un moyen de pression.
Voilà. Donc il y a des accords dans certains pays avec la Turquie, etc. La France, vis-à-vis de la Turquie, a mis le porte-avions au large. Et écoutez, si vous continuez, voilà. Donc c'est un moyen de pression politique.
C'est ce que les Chinois font à Taïwan, en l'occurrence.
C'est un moyen de pression politique. Donc c'est un outil politique, d'une part. C'est un outil, ensuite, diplomatique. Et d'ailleurs, effectivement, il peut y avoir un certain nombre d'actions diplomatiques qui mettent en œuvre le porte-avions d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il faut savoir que c'est aussi un acte, c'est-à-dire c'est le porte-avions, c'est aussi la souveraineté du pays. C'est-à-dire que la France a ce porte-avions représente la France. Qui s'attaque à ce porte-avions s'attaque à la France.
Bien sûr. Ouais.
Donc, ça a un sens. qui, que ce soit des petits bateaux, des gros bateaux, des machins, s'attaquer à la France, ça a un sens. Là, je pense que politiquement, diplomatiquement, déjà, c'est utile. Ensuite, il y a d'autres raisons. Il y a une raison qui est, je dirais, stratégique. Quelle est la caractéristique de la France en matière, je dirais, économique au sens large ? Quelle est la caractéristique de la France ? La France est un des pays du monde qui a le plus de côtes, qui a le plus de mers, d'îles, à droite, à gauche. Et je peux donner l'exemple des îles que personne ne connaît, que ce soit les îles des Kerguelen, je ne sais pas si tu connais les îles Kerguelen, ou les îles qui sont à côté, l'île Saint-Paul, etc. Bon, on a tout un tas d'îles à tel endroit, et à côté, il y a des fonds, et à côté, il y a de la richesse, à côté, il y a, des, je dirais, des quantités de possibilités, aussi bien pour la pêche que pour, les, je dirais, aujourd'hui, les
études météorologiques, que, en voie de satellite.
En même temps, pour tout ce qui...
Les minéraux.
Voilà, les minéraux, les terres rares, etc. Et puis les nodules polymétalliques. Bon, donc on a déjà parlé. Donc dans ce cadre-là, la France a, je dirais, un trésor à protéger, et qu'un porte-avions, quand on défend des îles, etc., face à des îles, etc., il n'y a aucune difficulté pour le faire intervenir.
Mais est-ce que ça suffit, hein ?
Disons qu'il permet, je dirais, quand il est dans une zone où il y a des intérêts français à défendre, il ne va pas y aller tout seul, d'abord, il va y aller avec une frégate, il va y aller avec des sous-marins, etc. Il montre bien, je dirais, quand même, toute la puissance d'intervention possible, voire éventuellement, ce qui s'est fait à plusieurs reprises, de récupérer des réfugiés aussi quand il y a une catastrophe, quand il y a un tsunami à tel ou tel endroit, et on peut l'utiliser, le porte-avions, pour être hôpital de secours, pour être, je dirais, capable, en urgence, de traiter, je dirais, des conflits rapidement, etc. Donc il y a tout un tas d'avantages au niveau diplomatique et politique en utilisant le porte-avions. Et un autre avantage qui est stratégique, c'est que si la France, comme je disais tout à l'heure, a effectivement un savoir-faire dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on a un savoir-faire, eh bien, il faut que ce savoir-faire soit aujourd'hui, moi, c'est la condition que je mets, c'est-à-dire il faut que ce porte-avions soit entièrement français. Et je voudrais attirer l'attention, peut-être que tu le savais, mais il y a quelque temps, le porte-avions Charles de Gaulle a été arrêté pendant 9 mois. C'était une vengeance des Américains, parce que la France était intervenue dans un pays et avait refusé d'intervenir ensuite. Et donc les Américains, pour se venger, n'ont pas fourni la pièce de rechange des catapultes du porte-avions Charles de Gaulle. Donc ça, il est clair que demain, les catapultes doivent être françaises et que les pièces, vitales du porte-avions nucléaire français, et ça, le ministre doit y faire attention, ça doit être 100% français. Et c'est-à-dire que tout ce qui est sensible ne peut pas être, je dirais, on ne peut pas dépendre d'un autre pays, qu'il soit américain aujourd'hui, qu'il soit russe, qu'il soit, je dirais, chinois. Donc, il faut être très prudent.
Question aussi, à quelle vitesse ça se déplace un
Alors, ça, en une nuit, ça peut
pas
faire
vite,
400 km en une nuit.
Ouais, pas vite. Hein.
400 km en une
400
nuit.
400 km en une nuit, ce qui permet d'être quand même assez discret, de bouger.
Ouais.
Ah non, mais attends, le porte-avions est un des bâtiments de guerre qui est les plus rapides. D'accord. C'est de l'ordre de 32, la vitesse max au moment des catapultages. Et ça dépend du vent, ça dépend de plein de choses.
Ça
mais...
fait combien, 30 nœuds en kilomètre?
Ah, 32, c'est pas énorme, ça fait 50 km/h.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Oui, 50 km/h.
Voilà. Pour l'instant, on n'a pas un porte-avions hors bord. On pourrait imaginer un porte-avions avec, effectivement, je dirais, des formes un peu spéciales pour pouvoir permettre de surfer sur l'eau. Hein. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait sortir un petit peu des sentiers battus. Je pense aussi que si la France était un petit peu astucieuse, si on construit à Saint-Nazaire tout un tas de bateaux, et il faut garder cette compétence.
Tout à fait. Et
je pense que là, on pourrait faire des porte-containers. Et quand on met plusieurs porte-containers, on peut faire également des porte-avions. C'est-à-dire que si on avait des porte-containers qui sont réquisitionnables, en disant ces porte-containers, ils servent pour le trafic commercial, et je suis capable de les arrêter parce que le gouvernement demande qu'effectivement qu'on puisse les utiliser pour être des porte-avions.
Tu peux en faire des porte-avions ?
Aujourd'hui, on peut carrément en faire des porte-avions.
Ah bah ça c'est intéressant, parce que se poser la question du deuxième, finalement, on l'a
peut-être la solution. Ça a été déjà envisagé il y a de nombreuses années, mais comme ça coûte pas cher,
c'est pas l'intérêt du lobby.
Oui, faut
donc
que ça
le lobby industriel lui a dit alors en revanche, c'est vrai que déjà au moment de la guerre des Malouines, les Anglais ont transformé un porte-container en porte-avions, mais c'était des avions à décollage vertical.
Okay.
Bon, mais c'est clair qu'on peut aller plus loin. On peut mettre des hélicoptères aussi. T'as aujourd'hui des porte-containers. T'as des porte-containers où tu as pratiquement deux terrains de foot.
Ouais, c'est énorme.
T'as des énormes.
Sur le Charles de Gaulle, la longueur de la piste, elle
300
combien,
mètres environ, c'est 300
ça
mètres.
Ça fait combien de terrains de foot?
Un porte-avion, c'est 300 mètres, ça doit faire deux terrains de foot.
Deux terrains de foot, 300 mètres.
Un terrain de foot, c'est 90 mètres, quoi.
Ouais, ouais.
Donc
ouais,
tu dois avoir deux terrains de foot.
Deux terrains de foot, de manière à pouvoir décoller.
Voilà.
Combien d'avions sont un porte-avions, d'ailleurs?
Ça dépend de la taille du porte-avions.
Ouais, mais par exemple, comme.
Sur le Charles de Gaulle.
Ah, bah si tu as le Nimitz, ou si tu as, je dirais, le Ticonderoga, ou si tu as le.
Ça dépend des avions aussi.
Voilà, ça dépend. Mais c'est
oui,
vrai que.
On va pas le dire.
Non, mais tu peux. En gros, ça peut être de l'ordre de 30, 40, 50, 30, 60.
50. Ouais, ça, c'est suffisant.
Ça dépend ce que tu mets aussi comme avion. Tu peux mettre des Hawkeye, par exemple, qui sont des avions, je dirais, de contrôle aérien, que tu mets au-dessus de, pour surveiller, pour faire la défense aérienne de la flotte et de toute la région.
C'est ceux qui ont les gros machins au-dessus.
Oui, un radar, un radome, qui détecte effectivement tous les intrus dans la zone. Donc ça contribue à la défense. Du porte-avions. Alors maintenant, est-ce qu'on a cette même capacité pour des drones? Je pense que ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas.
Mais visiblement, la France est en train de. Enfin, l'armée française et en tout cas le
gouvernement,
l'establishment, le gouvernement, est en train de vachement. Non seulement réfléchir, mais commence à investir aussi justement sur.
Vaut mieux tard que jamais.
Vaut mieux tard que jamais, on est d'accord.
Parce que là, moi, dans la défense aérienne française, il y a effectivement des gens qui sont chargés de défense aérienne du territoire de la ville de Paris. On se souvient effectivement des drones qui avaient survolé l'Elysée. Donc, on a oublié que. Aujourd'hui, on fait des pataquès pour Moscou, mais.
C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça.
Et ouais, donc, je pense que la défense aérienne, effectivement, aujourd'hui, est à la pointe en France pour. Permettre que ces drones soient tirés. Mais c'est vrai aussi qu'on ne lui a pas donné beaucoup de moyens. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment un investissement important pour la défense aérienne française, de manière à ce qu'elle puisse avoir les moyens de pouvoir défendre. Et puis maintenant, il y a une question de prix. Alors ça, je voudrais aborder le prix du porte-avions.
Pour conclure.
Le prix du porte-avions, et c'est important, c'est 10 milliards.
Ouais, c'est
10 milliards pour la loi de programmation de 7 ans, c'est 10 milliards. Non, mais je te signale quand même que 10 milliards, ça correspondrait quoi à côté de ça? C'est par rapport au par exemple, à.
Tout le budget,
si tu veux, de la.
De l'enseignement.
Le budget des vaccins Pfizer.
Ah oui, bah
ça. Avoir en un an, en 2020, c'était 10 milliards.
Donc c'est
en une année, en 10 milliards, c'était les masques. Il y a eu également 5 milliards 3 de masques, et il y a eu le reste avec.
Donc on aurait mieux fait déjà de construire un porte-avions.
Avec 10 milliards, tu te rends compte? Bon, et quand on dit que c'est cher, quand tu regardes 10 milliards par rapport. Quand tu divises.
Sur 10 ans déjà.
Quand tu divises déjà sur 7 ans, et que tu divises ensuite sur l'utilisation pendant 40 ans.
Oui, oui.
Donc,
oui,
le porte-avions qui va être construit doit être lancé en 2038. 2038 plus 40.
2038.
2078, ouais.
2078.
Attends, ça met 15 ans à construire.
Ouais. Il y a beaucoup, si tu veux, de
c'est
travaux.
C'est une catastrophe.
Alors moi, je pense que...
Vas-y, ça,
non,
on va aller à Saint-Nazaire. Alors, bah,
mais grave, on peut pas accélérer le mouvement.
Ouais, mais c'est des ouvriers français.
Non, mais c'est un truc de taré, 15 ans.
Non, c'est pas ça. Il faut pas, moi, je dis que les ouvriers qui sont extrêmement performants. Il y a deux raisons.
La bonne question,
c'est que si on veut garder la mémoire de fabrication de tous ces bateaux de guerre, et qu'ensuite, ça se transmette, je dirais, de génération en génération, pour pouvoir être capable, 30 ans après, de le faire, il faut étaler un certain nombre de constructions, donc de construction du porte-avions, construction également des frégates, construction de ci, de manière à ce que le personnel chargé de cette construction puisse garder la mémoire de tous les savoir-faire. Tu veux, quand on perd les savoir-faire, ça met des années à les retrouver. Des années. Et là, on perd notre souveraineté à cause de ça.
Oui, mais là, moi, je comprends. Il y a un truc que je comprends. Enfin, ça m'interroge quand même, parce que quand tu vois justement les paquebots de croisière qui sont construits, les mastodontes gigantesques
ça
qui sont construits au chantier à Saint-Nazaire, ça met pas 15 ans.
Ah non, ça va vite. Ça va très vite.
Ça met pas 15 ans.
Ça met 4 ans ou 5 ans.
Bah voilà. Oui.
Mais c'est pas la même technologie.
Bien sûr, c'est pas la même technologie, mais si on peut faire un
casino, la boîte de nuit.
Bah ouais, mais si on peut faire un paquebot gigantissime.
Et la piste d'ensemble.
Alors, de en 4-5 ans.
Ce que je comprends, en gros, tu as la villa, je dirais, à Neuilly, et puis tu as effectivement le conteneur qui te sert où tu loges dans le conteneur.
Voilà.
Alors,
parce que
ce que je comprends aussi de ce que vient de dire.
Des bateaux de croisière.
Ce que je comprends aussi de ce que vient de dire le colonel. C'est que aussi, c'est pas le même enjeu. Enfin, le porte-avions, il faut qu'on garde le savoir-faire pour pouvoir continuer à en faire, parce que ça a des enjeux stratégiques, militaires, politiques, etc. Que les paquebots, eux, c'est un enjeu plutôt économique.
Et quid d'un sous-marin, d'un porte-avions, pardon, j'en veux pour le sous-marin, ça sera peut-être l'objet d'un autre sujet. Quid d'un porte-avions européen entre plusieurs nations?
Alors moi personnellement, aujourd'hui, vu ce qui s'est passé en Union européenne par rapport au conflit en Ukraine, il n'y a aucun accord entre les différents pays.
D'accord. Ouais.
Et en plus, il y a une culture française qui est une culture, je dirais, internationale du fait même de l'histoire.
Donc on veut pas.
C'est pas qu'on veut pas. Non, mais il faut être beaucoup plus pragmatique et dans le concret. C'est-à-dire qu'on a une histoire internationale en France que n'a pas la Tchécoslovaquie, que n'a pas la Hongrie, que n'a même pas l'Italie. Alors l'Italie, à l'époque, effectivement, de Venise et de toute la République de Venise, qui avait des bateaux qui allaient dans le monde entier, oui, ça existait. Mais si tu veux, aujourd'hui, il faut quand même aussi que la France garde cette capacité à avoir un rayonnement dans le monde. Et je pense que ça commence, effectivement, par le savoir-faire en matière
individuel.
Non, pas individuel. Mais on peut s'entendre. Mais aujourd'hui, quand les Allemands, si tu veux, refusent de faire un avion de chasse avec la France.
Oui,
quand
c'est déjà compliqué, bon. On l'entend.
Non, puis vu comment Darmanin s'embrouille avec Giorgia Meloni en ce moment, je pense que c'est pas très bon. La coopération franco-italienne, c'est pas une super bonne idée. Hein.
Si le porte-avions, c'est pour récupérer des clandestins.
Pour l'instant, c'est moyen-moyen. Tant qu'on a Meloni en Italie, c'est peut-être pas génial. Hein.
Allez, on se retrouve dans quelques instants.